Allez, on va recevoir notre invité du jour, Michel Favret. Michel, bonjour, bienvenue.
Bonjour Joël.
Alors on dira quelques mots sur l'Afrique du Sud, ce beau voyage.
Si on trouve le temps.
Oui, on trouvera quelques minutes. Alors c'est la chronique Astro numéro 36 et puis on aurait pu presque chanter Happy Birthday ou c'est un clin d'œil à l'Afrique du Sud, ou bon anniversaire à la chronique.
Exactement, ça va faire 3 ans de collaboration avec O2 Radio. Et en fait, le vrai 3e anniversaire a dû se fêter fin septembre, puisque la première chronique a été diffusée sur l'antenne le 24 septembre 2014. Sauf que le 24 septembre dernier, comme vous le disiez, j'étais environ 9000 km au sud de ce nom, dans la région du Cap, en Afrique du Sud. D'où la toute première annulation de la chronique durant ces 3 dernières années. Alors je profite de cette 36e édition pour remercier O2 Radio de m'accueillir sur ces ondes, en espérant que les auditeurs ne se lassent pas d'entendre parler du ciel et de l'espace. En tout cas pour moi, c'est un sujet qui me paraît pratiquement inépuisable, tant il est vaste et varié, de l'histoire des connaissances en astronomie aux informations sur les astres, l'explication des phénomènes, les instruments impressionnants utilisés par les chercheurs, l'incertitude des missions d'exploration spatiale. Je ne crois pas me tromper en prédisant que notre 4e saison sera encore riche en nouveautés.
Voilà, et puis au nom de l'équipe de O2 Radio, merci justement pour cette collaboration et ce travail. Et puis voilà, on espère encore fêter de beaux anniversaires. Alors on va dire quelques mots, étant sur la rive droite bordelaise de l'Observatoire de Bordeaux.
Voilà, en 3 ans, j'ai eu de nombreuses occasions d'exprimer ici mon inquiétude pour le devenir de ce site historique, vidé de ses chercheurs au début de l'année 2016 et pratiquement laissé à l'abandon depuis. Avec la création ensuite de l'association Sirius pour sa sauvegarde, qui s'était réunie publiquement pour la première fois en mai dernier. Et dans ce triste dossier, il semble y avoir enfin une bonne nouvelle avec la réouverture du site aux visites annoncée par Sirius début septembre, tout d'abord à l'occasion des journées du patrimoine, puis régulièrement depuis début octobre en partenariat avec Bordeaux Métropole. Ces visites sont possibles les mercredis après-midi pour des groupes, jusqu'à 18 personnes maximum, à 13h30 et à 15h. Pour tous les renseignements, il faut aller voir le site de l'association Sirius. C'est sirius-florac.fr, c'est facile. L'association a soumis un projet de reprise du site pour des activités culturelles et de diffusion des connaissances au président de Bordeaux Métropole, donc Alain Juppé, qui doit visiter l'Observatoire ces prochains jours. Dans le communiqué de Sirius, c'était marqué fin octobre. Et j'espère que ces petites avancées annoncent enfin le renouveau de ce site au patrimoine architectural et instrumental très intéressant.
Voilà, pour la visite, ça a eu lieu déjà, mais c'est vrai que voilà, ça c'est l'actu, mais c'est pas grave. Oui, non, mais c'est surtout pas un reproche, Michel. Allez, Cassini, on est toujours dans l'actualité, à plonger dans Saturne, là, le 15 septembre.
Oui, c'est un peu du réchauffé, mais comme j'étais pas là, je l'avais annoncé lors de la dernière chronique du 6 septembre dernier, la sonde Cassini a plongé dans l'atmosphère de Saturne pour être détruite et éviter ainsi la contamination des satellites de la planète par des germes terrestres. Je rappelle que sa mission initiale d'étude de Saturne et de ses satellites était prévue au départ d'une durée de 4 ans, mais qu'elle a finalement pu être prolongée sur plus de 13 ans, apportant une moisson impressionnante d'informations et d'images que les chercheurs exploiteront encore pendant de nombreuses années. Et notamment sur Titan, le plus gros satellite, qui est le seul à posséder une atmosphère dans tout le système solaire. Les données de Cassini et de Huygens, la sonde européenne larguée dans son atmosphère en janvier 2005, montrent qu'il abrite des processus complexes, aussi bien du point de vue du climat que d'une chimie organique, pouvant peut-être ressembler à ce qu'était la Terre avant l'apparition de la vie. Malheureusement, les scientifiques devront se contenter des données déjà récoltées, car aucune mission américaine ou européenne vers Saturne n'est programmée pour les 10 prochaines années. Toujours aussi fiable, Cassini a envoyé vers la Terre ses dernières images, alors qu'elle pénétrait dans la haute atmosphère de Saturne, jusqu'à ce que toute transmission soit possible, et on peut assez facilement trouver ces clichés sur Internet, dont la toute dernière image de l'atmosphère de Saturne dans laquelle elle allait s'enfoncer, photo transmise peu avant la perte du contact avec la sonde.
Allez, le Nobel pour les ondes gravitationnelles.
Voilà, il y a 3 semaines, le mardi 3 octobre, le prix Nobel de physique 2017 a été attribué à 3 chercheurs américains, Rader Weiss, Barry C. Barish et Kip S. Thorne pour la première observation des ondes gravitationnelles. J'avais parlé ici de cette détection de ces ondes le 15 septembre 2015 par le laboratoire LIGO, je pense qu'en américain on dit plutôt LIGO d'ailleurs, Laser Interferometer Gravitational Waves Observatory, ce qui donnera en français à peu près Observatoire d'ondes gravitationnelles par interféromètre laser. Cette détection est survenue presque exactement pour le 100e anniversaire de la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, dans laquelle il introduisait la notion d'un espace-temps déformable qui rendait possible l'existence de ces ondes, dont il avait prédit l'existence en 1916, donc 100 ans auparavant. Ces ondes sont une vibration de l'espace-temps qu'on ne peut détecter que lorsqu'elles sont produites que par des phénomènes très énergétiques, comme la fusion de deux trous noirs, c'était la première détection, un véritable cataclysme cosmique, tant ces ondes sont faibles, de faible ampleur, même pour des détecteurs extrêmement grands, les LIGO font dans les 4 km de long, et sensibles, il faut détecter des variations de longueur infimes correspondant à environ l'épaisseur d'un cheveu par rapport à la distance Terre-Lune. Mais juste après ce prix Nobel, ces ondes se sont encore faites remarquer dans l'actualité, car une observation annoncée mi-octobre, mais remontant en fait au 17 août dernier, vient confirmer tous les espoirs qu'on mettait dans la possibilité d'une nouvelle astronomie ouverte par ces détections. Les ondes gravitationnelles étant un autre type de signal émis par certains objets dans l'univers, en complément de la lumière qui était jusqu'alors notre seule source d'information. Cette première vient de la mise en service d'une version plus sensible du détecteur européen Virgo, alors j'ai pas la signification là du sigle, j'ai pas pensé à la chercher, plus petit que les LIGO américains, il fait que 3 km de long, et situé en Italie dans la région de Pise. Car avec 3 détecteurs en service, il devient possible de situer plus précisément de quel point de l'espace nous proviennent les ondes détectées. C'est ce qui était fait le 17 août, permettant alors de braquer de grands télescopes optiques ou radiotélescopes vers cette source pour voir si le phénomène détecté émet aussi des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire de la lumière ou des ondes radio. Et on a trouvé une petite source lumineuse dans la galaxie nommée NGC 4993, située à environ 130 millions d'années-lumière de nous. La catastrophe à l'origine des émissions, qui s'est donc produite il y a 130 millions d'années, car les ondes gravitationnelles se propagent à la même vitesse que la lumière, serait la collision de 2 étoiles à neutrons qui orbitaient l'une autour de l'autre en se rapprochant progressivement. Comme les trous noirs stellaires, les étoiles à neutrons sont des objets très denses, résultant de l'explosion d'une étoile très massive, au moins 8 fois la masse du Soleil, comprimant tellement fort sa partie centrale qu'il n'y reste presque plus que des neutrons, avec une densité de matière extrême, environ 2 à 3 fois la masse du Soleil comprimée dans une petite sphère de seulement 20 à 40 km de diamètre. C'est-à-dire qu'une cuillère à café de cette matière pèse dans plusieurs milliers de tonnes. Et ce sont en fait des cadavres d'étoiles. Ce qu'il faut retenir de cette nouvelle observation, c'est que la détection des ondes gravitationnelles se révèle bien être une nouvelle forme d'astronomie en complément et parfois en association avec l'astronomie habituelle basée sur la lumière.
Allez, deuxième partie de votre chronique, Michel. Alors, le ciel du Sud, un peu d'astronomie en Afrique du Sud.
Alors, effectivement, comme j'avais renoncé au voyage aux USA en août pour y voir l'éclipse totale de soleil, j'avais tenu à mettre un peu d'astronomie dans ce voyage en Afrique du Sud, dont le motif principal était bien sûr les paysages, la faune, la flore, avec notamment la floraison printanière, c'est le printemps en septembre en Afrique du Sud, et les passages des baleines le long des côtes. Et de ce point de vue, on a été plutôt gâtés par les visites des parcs nationaux, des réserves, nos sorties en mer, mais pour l'astronomie, le résultat est plutôt mitigé en raison de la météo assez capricieuse. Alors qu'on pouvait s'attendre à un ciel clair en début de la saison sèche, surtout dans les premiers jours du voyage où on se trouvait dans des zones semi-désertiques, l'observation du ciel était rendue impossible par une forte couverture nuageuse. Je ne sais pas si on peut mettre ça sur le compte du dérèglement climatique, mais la situation est un peu étrange avec cette humidité inhabituelle en cette période, alors que l'hiver, habituellement pluvieux, avait été plutôt sec, produisant une sécheresse inquiétante. Par exemple, à Parle, notre première étape à environ une heure de route au nord du Cap, de grands panneaux lumineux au bord de la route nationale rappellent que la région est en alerte hydrologique et qu'il faut économiser l'eau le plus possible.
Alors, pas moyen de voir le ciel avec tous ces nuages, Michel ?
Alors, pas autant que je l'aurais voulu et surtout pas au télescope, comme j'avais prévu de le faire en prenant contact avec des astronomes amateurs sur place, car un télescope est trop lourd et trop fragile pour être facilement transporté en avion. Mais j'ai quand même pu observer le ciel à l'œil nu et aux jumelles quelques soirées et même tenter quelques photos en champ large dans d'assez bonnes conditions en général, car j'avais planifié le départ pour ne pas être gêné par la lune pendant tout le début du séjour. De plus, en cette saison, la nuit arrive très tôt là-bas, à peu près vers 19h30. Et la première chose qu'on constate en tournant les yeux vers le ciel austral, c'est qu'on est complètement perdu. En effet, tous nos repères habituels ont disparu, car en se tournant vers le nord, on ne voit pas d'étoiles polaires, ni même la figure familière de la grande ours, souvent on connaît surtout la grande casserole, qui n'apparaît jamais dans le ciel à cette latitude. Dans la région du Cap, nous sommes à environ 30 degrés de latitude sud, soit une situation presque inverse d'ici, à 45 degrés de latitude nord. Au bout d'un moment, si on fait bien attention, on commence à reconnaître quelques motifs connus, comme par exemple la tête du scorpion dessinant une sorte d'éventail à partir de l'étoile orangée Antares, mais dans des positions tout à fait inhabituelles, car ils sont à l'envers. En fait, cette façon de le dire est inexacte, car dans l'espace, il n'y a ni haut ni bas. En réalité, c'est la position de l'observateur qui est changée, car quand nous sommes dans l'hémisphère sud, c'est comme si nous avions les pieds en l'air et la tête en bas. bien que pour les Sud-Africains, c'est nous en Europe qui avons la tête en bas. Hein, la Terre n'ayant pas de raison d'être représentée avec le Nord en haut, sauf bien sûr pour flatter les pays colonisateurs qui dominent ainsi les pays du Sud. Il ne faut pas oublier que ce sont nos représentations que nous avons imposées au reste du monde. Il y a quelques années, j'avais vu en Australie des globes terrestres représentés avec le Sud en haut. Et bien que ce soit exactement le même globe, c'est incroyable comme ça peut changer notre vision du monde. Dans l'hémisphère sud, les repères sont totalement inversés et il nous faut faire un certain effort à nous nordistes pour bien penser que le soleil est au nord à midi et non au sud comme en France. Avec un petit temps d'adaptation, on finit par reconnaître certaines constellations du ciel boréal quand on commence à lire la carte du ciel à l'envers. Par exemple, le Sagittaire, assez proche du Scorpion, les trois constellations du triangle de l'été avec le signe en bas près de l'horizon nord, et plus tard dans la nuit, Orion qui se levait vers 1h du matin, mais se présentait tête en bas et jambes en l'air, ce qui est très inhabituel pour nous. Alors qu'on commence à s'y reconnaître un petit peu, la catastrophe se produit dès qu'on se tourne vers le sud, car on est alors confronté à des constellations totalement inconnues et qui portent des noms bizarres comme la table, l'octan, le compas, la règle, plus quelques animaux comme la mouche, la grue ou le toucan.
Alors justement, d'où viennent ces noms très différents de ceux du Nord ?
Contrairement à nos bonnes constellations boréales qui sont majoritairement issues de la représentation du ciel hérité de l'Antiquité grecque, donc peuplées de figures mythologiques comme Hercule, Pégase ou Andromède, celles du Sud ont été découvertes à l'époque des grands navigateurs, comme le portugais Bartolomeu Dias, qui franchit le cap de Bonne-Espérance en 1488, puis la pointe sud de l'Afrique, le cap des Aiguilles, à la recherche d'une route sud vers les richesses de l'Inde et de la Chine. Ou encore un autre portugais, Fernand de Magellan, qui boucla le premier tour du monde entre 1519 et 1522, du moins son navire, car il est mort avant d'avoir achevé la boucle. Je trouve qu'il est toujours curieux d'ailleurs de dire que nous, les Européens, avons découvert le ciel du Sud alors qu'il était connu depuis des millénaires par les autochtones. Curieusement, il faut attendre le XVIIIe siècle et un astronome français, l'abbé Nicolas-Louis de Lacaille, pour qu'une carte du ciel austral assez complète soit établie. Parti pour un grand voyage dans le sud entre 1750 et 54 pour y mesurer le méridien, car à cette époque on ne connaissait pas encore précisément les dimensions de la Terre, il trouve le temps d'effectuer de fréquentes observations astronomiques au milieu de bien d'autres travaux scientifiques, comme par exemple la récolte de nombreuses espèces d'oiseaux. Il a relevé les positions de plus de 10 000 étoiles en 127 nuits d'observation, ce qui est une véritable prouesse et une révolution dans la connaissance du ciel austral, car dans les années 1677-78, Halley n'en avait mesuré que 341, donc on est passé de 341 à 10 000 étoiles. Et comme on l'avait fait depuis l'Antiquité pour le Nord, il a relié les étoiles les plus brillantes pour définir le dessin de 14 nouvelles constellations qu'il a nommées en rapport avec les instruments de navigation, comme le compas ou la règle, ou des instruments scientifiques comme le microscope, le télescope ou la bizarre machine pneumatique, hein, ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt une pompe à vide. C'est à lui qu'on doit donc toutes ces constellations australes un peu insolites. Et au passage, il a décidé aussi de casser la trop grande constellation du navire Argo en trois parties nommées les voiles, la poupe et la carène, que nous pouvons apercevoir partiellement en hiver à l'est d'Orion, très basses vers l'horizon sud car elles sont pratiquement à la limite entre ciel boréal et ciel austral.
Et la croix du sud ?
Alors c'est un peu l'exception qui confirme la règle car elle ne doit rien à Lacaille. On l'attribue généralement à Augustin Royer, un astronome français du XVIIe siècle, mais en réalité, elle semble avoir été connue auparavant, ces étoiles étant même visibles pour les Grecs qui les considéraient comme faisant partie de la constellation du Centaure. Sans trop se tromper, on peut penser que la Croix du Sud a été définie par des marins, tant elle était utile pour se repérer. De la même façon que dans le Nord, on prolonge 5 fois la ligne de 2 étoiles de la Grande Casserole, hein, la partie la plus connue de la Grande Ourse, pour trouver l'étoile polaire, donc le pôle Nord, c'est en prolongeant d'environ 4,5 fois la ligne longue de la Croix du Sud qu'on trouve le pôle Sud. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'étoile polaire pour le repérer, du moins pas d'étoile assez brillante, car il faut se munir de jumelles pour apercevoir les petites étoiles les plus proches qui permettent de situer le pôle Sud dans le ciel. C'est simplement par une heureuse coïncidence qu'une étoile bien visible se trouve presque exactement à l'emplacement du pôle Nord dans le ciel, à la grande satisfaction des astronomes, qui doivent régler les montures équatoriales de leur télescope sur ce repère avant de faire confortablement des observations à fort grossissement ou des photos, la rotation de la Terre étant en permanence compensée par un petit moteur électrique faisant tourner le télescope autour d'un axe rigoureusement parallèle à celui de la Terre. Sans étoile polaire, je ne vous dis pas comment j'ai dû galérer pour pointer correctement ma petite monture de voyage avant de pouvoir prendre de trop rares photos du ciel austral.
Et qu'y a-t-il de si intéressant justement dans le Sud ?
Alors pour résumer, je dirais des galaxies. à commencer par la nôtre, la Voie lactée. Ici, dans le Nord, quand on la voit dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en été, elle dessine une ligne blanchâtre depuis le cygne jusque le long de l'aigle pour s'élargir et devenir très brillante près de l'horizon sud, entre les constellations du Sagittaire et du Scorpion. Ce n'est pas étonnant car le centre de la galaxie, qui forme un bulbe plus large, se trouve dans le Sagittaire. On l'observe ou le photographie donc dans de très mauvaises conditions, car proche de l'horizon, en traversant une grosse épaisseur d'atmosphère, souvent brouillée par une légère brume d'horizon. Et il y a presque la moitié de la Voie lactée qui nous est toujours cachée car située sous l'horizon. Dans l'hémisphère sud, vers à peu près 20 ou 30 degrés de latitude, au moment le plus favorable, qui est de la fin de l'automne à l'hiver là-bas, donc de mai à août environ, le centre de la Voie lactée passe au zénith en début de nuit, c'est-à-dire à la verticale, où sa lumière traverse directement l'atmosphère dans son épaisseur et la galaxie se déploie dans toute sa largeur, pratiquement d'un horizon à l'autre. C'est un spectacle impressionnant et on perçoit la forme de notre galaxie dans son entier, vue par la tranche. En septembre, la situation est un peu moins favorable, mais elle est encore bien haute dans le ciel en début de nuit, et dès qu'on est loin de toute pollution lumineuse, comme le semi-désert appelé Karoo que j'ai traversé au début de mon voyage, cette grande forme, suspendue dans le ciel, attire immanquablement le regard. Et en prenant le temps de bien l'observer, on y distingue facilement la silhouette sombre de nuages de gaz et de poussière qui nous masquent une partie des étoiles, comme le fameux sac à charbon, situé juste à côté de la Croix du Sud. Dans un deuxième temps, on distingue deux autres petites galaxies, relativement proches de nous, mais à la forme très irrégulière. Cela semble assez fréquent que les grandes galaxies comme la nôtre soient accompagnées de plus petites, un peu comme des satellites. Par exemple, la grande galaxie d'Andromède, appelée ainsi car elle est située dans le ciel au sein de cette constellation bien visible en automne, est aussi accompagnée de deux petites galaxies qu'on voit bien sur les photos, mais aussi dans un petit télescope. Sauf que là-bas, il y en a une au-dessus et une en dessous de la grande galaxie, alors que pour notre Voie lactée, elles sont les deux du même côté. Malheureusement pour nous les nordistes, qui ne peuvent pas les voir dans le ciel, mais doivent se rendre dans le sud pour les admirer. Elles portent un nom familier, hérité du grand navigateur qui les a observées, les nuages de Magellan. En fait, ils avaient déjà été remarqués par Amerigo Vespucci, le découvreur de l'Amérique, dans les années 1503-1504. Toujours cette prétention des Européens d'avoir découvert les terres et les ciels du sud, il faut se rappeler que ces objets étaient déjà bien connus, par exemple, de l'astronome arabe Al-Soufi, qui vivait en Perse au Xe siècle. Je trouve que le nom des nuages de Magellan leur convient bien, car ils ressemblent effectivement à deux petits nuages luminescents suspendus dans le ciel. Par un curieux hasard, leur position dans le ciel forme pratiquement un triangle équilatéral avec le pôle sud, donc un moyen de situer ce repère grossièrement. Ces galaxies sont qualifiées de naines, c'est-à-dire qu'elles renferment seulement, si je peux dire, quelques milliards d'étoiles et non des centaines de milliards comme les grandes galaxies, et on les dit proches à l'échelle galactique car elles se situent à environ 150 à 200 000 années-lumière de nous, c'est-à-dire une fois et demie à deux fois le diamètre de la Voie lactée, alors que notre grande voisine est à environ 2 millions et demi d'années-lumière, 10 fois plus loin. Pour conclure, je rassurerai donc les astronomes qui veulent aller admirer le ciel austral. C'est vrai qu'on est un peu perdu entre les constellations boréales à l'envers et les australes inconnues, mais le spectacle en vaut la peine, avec une Voie lactée suspendue haute dans le ciel, et quand on la quitte pour tourner le regard vers le sud, on est fasciné par les deux nuages de Magellan et la Croix du Sud. Cela mérite vraiment le voyage.
Troisième partie de la chronique, le ciel du mois, et vous allez commencer par nous parler de la voûte céleste et des constellations.
Alors, il faut se rappeler, on le sait tous, que le week-end prochain, nous repassons à l'heure d'hiver. C'est-à-dire que dans la nuit de samedi à dimanche, on reculera les horloges d'une heure, il sera 2h à 3h du matin, et on pourra dormir une heure de plus sans changer son horaire de lever. Je rappelle que cette heure d'été ou d'hiver est une règle administrative pour économiser un peu d'électricité en été avec des soirées plus longues, mais qu'elle ne correspond à aucun phénomène astronomique, contrairement par exemple aux équinoxes ou aux solstices qui marquent les saisons. Avec ce changement d'heure, la nuit commencera bien plus tôt. Dimanche, le soleil se couchera vers 17h50, 6h moins 10, et il fera nuit noire dès 19h, à 7h le soir. À la fin novembre, ce sera même dès 18h30 qu'il fera nuit. Même si les conditions climatiques et le froid n'y incitent guère, la fin de l'automne et l'hiver sont donc particulièrement propices à l'observation du ciel, car elles ne nécessitent plus de veiller très tard comme en été, et de plus, l'atmosphère froide est moins agitée, ce qui donne des images plus stables aux jumelles ou aux télescopes, ce qu'on peut vérifier à l'œil nu en constatant que les étoiles scintillent très peu, voire pas du tout. Avec le raccourcissement des jours et la nuit de plus en plus tôt, le ciel qu'on peut voir en tout début de soirée correspond à celui du milieu de nuit, vers minuit, 1h du matin, en août. Donc avec encore dans le ciel les principales constellations de l'été, notamment le cygne, la lyre et l'aigle, dont les étoiles brillantes forment le triangle de l'été, qui est haut dans le ciel, plein sud, mais bascule lentement pour aller se coucher vers l'ouest en faisant place aux constellations de l'automne. Pour ce ciel de l'automne, je ne vous parlerai que de deux de ces constellations. Tout d'abord Pégase, qui est un peu la vedette du ciel de l'automne, à partir de laquelle on peut situer toutes les autres constellations, car il est facilement identifiable. C'est comme un grand carré, assez régulier, renfermant très peu d'étoiles et plutôt faible. En début de nuit, il est vers le sud-est et se trouve en diagonale dans le ciel, une pointe vers le bas et une vers le haut, avec deux autres étoiles qui forment comme un V collé au carré. C'est le départ des deux pattes avant si on dessine la figure du cheval ailé Pégase. Pour ce qui concerne les deux pointes aux extrémités de la diagonale, qui est pratiquement horizontale, celle de droite, donc à l'ouest, est le point de départ de l'encolure, et si on connaît la figure, on peut voir l'étoile qui forme l'œil, puis celle du naseau, Enif en arabe, qui est le nom de l'étoile, et d'où vient le verbe enir en français. La pointe de gauche est intéressante car c'est l'extrémité de la constellation d'Andromède, qui se présente grosso modo comme deux lignes allant en s'écartant progressivement vers l'est, comme un angle un petit peu recourbé. Andromède est intéressante car à défaut de pouvoir aller dans l'hémisphère sud admirer les nuages de Magellan, on peut y apercevoir la grande galaxie voisine de la nôtre, que les astronomes numérotent M31, la grande galaxie d'Andromède. Si on pouvait la voir comme sur des photos, elle serait énorme, dans les 6 fois la pleine lune en longueur. Mais nos yeux ne sont pas assez sensibles pour ça, et on ne peut apercevoir que son centre bien plus lumineux, car avec une forte densité d'étoiles, comme pour le bulbe de notre Voie lactée. Elle est visible dans un ciel bien noir de campagne, comme une petite tache floue dans le ciel, et encore mieux aux jumelles qu'à l'œil nu. Pour la situer, c'est très simple. En prenant la diagonale horizontale du carré de Pégase et en la prolongeant vers l'est, on passe par une étoile d'Andromède un peu décalée vers le bas, puis la suivante se retrouve presque dans l'alignement. Au niveau de cette deuxième étoile, on tourne à 90 degrés vers le haut pour trouver une étoile plus faible, puis une autre, et un peu plus à droite de laquelle se trouve la petite tache floue du centre de la galaxie d'Andromède. Quand on l'observe, il faut penser que la lumière qui pénètre dans notre œil est partie de là-bas il y a environ 2,5 millions d'années, donc à peu près quand notre ancêtre, la fameuse Lucie, gambadait dans la savane africaine. Bien entendu, toutes ces explications sont sans doute un peu difficiles à suivre sans carte du ciel, et j'invite les auditeurs à aller les consulter sur notre site, donc www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org. Il y a bien sûr toute la partie concernant nos activités, dont le planétarium qui va dans les écoles, avec toutes les informations pour le faire venir dans les écoles, les collèges, les lycées. Et il y a une partie astronomie avec le ciel du mois. Alors, ces jours-ci, c'est encore le ciel du mois d'octobre qui est en ligne, mais le ciel de novembre sera mis en ligne, je pense, en début de semaine prochaine.
Allez, toujours dans le cas du ciel du mois, parlez-nous des planètes.
Alors, en ce moment, la seule planète observable le soir est Saturne, mais qui est déjà bien basculée vers le sud-ouest dès le début de nuit et se couche très tôt. 21h30, je parle en heure d'hiver puisqu'on va changer d'heure ce week-end. Dès la mi-novembre, elle ne sera plus observable car presque couchée en début de nuit. On la reconnaît à sa couleur un petit peu jaunâtre dans le ciel. Nous ne sommes pas plus gâtés le matin car Vénus, qu'on pouvait observer très brillante ces dernières semaines, se lève de plus en plus tard, vers 7h, toujours en heure d'hiver, soit seulement 1h30 avant l'arrivée du Soleil. Comme elle s'en rapproche progressivement, elle deviendra de plus en plus difficile à voir, pratiquement dans les lueurs de l'aube à partir de la mi-novembre. Il y a cependant une planète qui est apparue dans le ciel du matin ces derniers temps, c'est Mars, qui se lève actuellement vers 5h, toujours en heure d'hiver, et ce sera vers 4h30 fin novembre. Malheureusement, elle n'est pas encore très brillante, pas plus qu'une étoile brillante dessinant les constellations, et c'est seulement sa couleur orangée qui permet de la reconnaître. Mais au fil des mois, elle deviendra de plus en plus visible, car nous nous rapprochons d'elle, avec une opposition l'été prochain. L'opposition, c'est quand la Terre passe entre Mars et le Soleil, donc au plus près de la planète rouge. À partir de la mi-novembre, on verra aussi Jupiter réapparaître dans le ciel du matin, se levant presque avec Vénus.
Allez, les éphémérides.
Alors toujours les conjonctions de planètes avec la Lune ou entre elles. Comme je viens d'évoquer, le lundi 13 novembre, Vénus et Jupiter se lèveront ensemble vers 6h45, séparés de seulement 0,2 degrés, ce qui est vraiment très peu. Elles sont très très proches dans le ciel. Le mercredi 15, c'est Mars qui se lèvera vers 4h30, proche d'un fin croissant de lune à environ 3 degrés de lui, c'est-à-dire à peu près la largeur du pouce bras tendu. J'essaie de donner des références faciles. Et c'est tout, car comme la période n'est pas favorable à l'observation des planètes, il n'y a pas non plus beaucoup de conjonctions dans le ciel.
Voilà, merci Michel pour cette chronique Astre numéro 36. Alors vous en avez parlé bien sûr de l'Afrique du Sud, donc là on sort bien sûr du cadre de la chronique. C'était pas la première fois hein, d'ailleurs que vous alliez en Afrique du Sud.
Non, c'était un retour parce qu'en fait on était déjà allé avec mon ami en Afrique du Sud en février 1999. C'était d'ailleurs assez tôt, hein, l'Afrique du Sud s'est ouverte au tourisme ben, après la libération de Mandela. Hein.
Oui, entre l'apartheid, voilà. Toute l'histoire donc, singulière de l'Afrique du
Sud.
C'est
plutôt à la fin des années 90 que le tourisme a commencé à décoller là-bas. Alors il a beaucoup progressé. Hein. Aujourd'hui, quand on va dans certaines villes, on a du mal de se reconnaître. Il y a des plages où il n'y avait pratiquement rien. Maintenant, il y a des maisons tout le long. Dans les parcs naturels, il y a beaucoup plus d'hébergements qu'auparavant. Alors, on avait choisi cette année d'y aller en septembre parce que, comme je l'ai dit, c'est le début du printemps. C'est une saison différente. En février, c'était la fin de l'été. Hein, ce sera à peu près l'équivalent de fin août, début septembre ici. Et on avait été, enfin, mon ami surtout, hein, qui s'intéresse plus aux fleurs que moi, avait été un peu déçu parce que c'était un peu la fin pour la saison des fleurs. Et donc, cette année, on avait décidé d'y aller plus tôt dans la saison pour voir le début de la floraison. Et l'autre avantage, c'est que c'est la période où passent des baleines, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, on peut avoir la chance de voir des baleines déjà depuis la côte. Hein, c'est assez étonnant. Moi, c'est la première fois que je voyais des baleines. Depuis une falaise, on voit des baleines à, je sais pas, 100 ou 200 mètres de nous. Certaines vont même jusqu'à, comme on le voit dans des reportages, hein, sauter en l'air et retomber en faisant des grandes éclaboussures. Voilà pourquoi on avait choisi ça. Et moi, j'avais calé par rapport à la Lune pour essayer d'avoir un beau ciel. Malheureusement, les nuages en ont décidé un petit peu autrement.
Voilà, mais c'était un bon voyage. Regardez, vous avez la tête dans les étoiles, mais les baleines, voilà, vous avez dû certainement passer de bons moments.
Oui, alors c'était un bon voyage au point qu'on commence à se poser la question d'y retourner une troisième fois, peut-être.
Bon, j'allais poser la question, mais vous anticipez.
Parce que c'est vraiment un pays formidable. Comme on le dit, et ils sont très heureux. Hein, les Sud-Africains sont très, très accueillants. On discute assez facilement avec des gens dans la rue, sur la plage ou autre.
On maîtrise la langue, enfin, il y a plusieurs dialectes, etc.
Mais l'anglais, l'africaneur, j'essaierai pas.
Universel.
Bah, par exemple, les baleines, on les a vues près d'un petit port qui s'appelle, pour nous, si on lit à la française, Gans Bay. Mais il faut savoir que c'est Rams Bay. Hein. Donc, l'africaneur.
Ah, c'est mieux, c'est beaucoup
l'africaneur,
mieux.
C'est un peu difficile. En anglais, on se débrouille partout. Tout le monde parle anglais là-bas pratiquement. Et effectivement, donc, il est assez facile de discuter avec eux. Ils étaient très contents de voir qu'on revenait presque 20 ans après, tellement on avait aimé leur pays. C'est un pays qui est très varié, un peu comme la France, on pourrait dire, très varié en termes de paysages. Il y a des zones désertiques ou semi-désertiques. Il y a des zones beaucoup plus humides le long de la côte sud, des montagnes. C'est vraiment très, très varié comme paysage. Il y a les deux océans, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Comme il n'y a rien en face, hein, c'est l'Antarctique, il y a des houles énormes. Hein. Il y a un parc où on est allé, c'est le parc de Tsitsikamma. La houle, elle fait, je ne sais pas, 2-3 mètres tout le temps. Elle vient s'écraser sur les rochers en faisant des gerbes de 20 mètres. Il n'y a pas besoin de télévision là-bas. On met une chaise devant la côte et on passe la journée à regarder les vagues.
C'est la nature. Hein,
voilà, c'est la nature. Alors, bien sûr, dans la nature, il y a aussi les animaux, dans les parcs, les réserves.
Et la biodiversité,
Éléments, les éléphants, les girafes, tout ça. Les lions. Alors, on a eu un épisode un petit peu stressant avec les lions parce qu'on les suivait la nuit. On nous promenait en safari, si on peut dire, entre la nuit, le dîner et le retour à nos chambres. On suivait tranquillement deux lions qui s'énervaient un petit peu le long d'une palissade parce que ils voyaient d'autres lions de l'autre côté. Et d'un seul coup, sans prévenir, ils ont fait demi-tour, ils ont foncé vers nous et ils sont passés à 50 cm du véhicule ouvert. Hein, c'est un 4x4 ouvert. Je pense que s'ils avaient décidé de sauter dans la voiture, on était mal. Mais apparemment, comme on n'est considéré ni comme un danger, ni comme une nourriture, pour eux, ils ne s'intéressent pas vraiment à nous. Ils passent à côté de nous comme ils passeraient à côté d'un arbre. Mais pour l'humain qui est dans la voiture, c'est un petit peu stressant quand même.
Je pense aussi. Hein.
Voilà.
Voilà. Donc ça, c'est de beaux souvenirs. Alors, projet d'y retourner, pas forcément de suite, bien sûr.
Non, pas de suite. Peut-être à la retraite, qui se rapproche progressivement. Je pense qu'avant, en termes d'astronomie, par exemple, un des prochains voyages, je l'avais dit, suite à l'éclipse aux États-Unis, ce sera peut-être l'Amérique du Sud en 2019, parce qu'il y aura à nouveau une belle éclipse. Et si on va au Chili, il y a des grands télescopes là-bas et c'est intéressant d'aller voir le ciel. Au Chili, c'est un peu comme en Afrique du Sud. Dès qu'on est loin de la pollution lumineuse, il y a un très 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 beau ciel.
Bon, ça augure de bien belles bonnes choses encore. Bon, Michel, on va rappeler, puis on va rester là. Donc, sélection des galaxies. Voilà, rappelez-nous un petit peu les missions, cette passion de l'astronomie à faire partager, notamment via le planétarium. Hein.
Voilà, Constellation et Galaxies, c'est une petite association basée en Dordogne, près de Mussidan, et dans une zone très large. Hein, on s'est limité à peu près 1h30 de trajet en voiture. Donc ça va en gros de Bordeaux à Brive et de Angoulême jusqu'à Villeneuve-sur-Lot. On circule dans la région avec un petit planétarium itinérant. Donc c'est une structure gonflable dans laquelle on met un projecteur spécial qui permet de voir le ciel comme s'il faisait nuit et d'expliquer. Or souvent ce sont à des élèves, puisque c'est en école, en collège ou en lycée, d'expliquer un peu le béaba de l'astronomie, c'est-à-dire les mouvements, qu'est-ce que c'est que ces étoiles, ces planètes qu'on voit dans le ciel. De temps en temps, ce sont des centres de loisirs qui nous font venir pendant les vacances scolaires, par exemple, ou de temps en temps pour des associations, pour du public, même adulte.
Hein. Le ciel intéresse tout le monde. Il y a quelques années, justement.
Voilà, on l'avait
pour
fait.
La manifestation Planète, il y avait un lien.
C'était un peu rock'n'roll, d'ailleurs, parce que c'était en plein air.
Oui, et puis il faut s'adapter, bien sûr.
Alors que le planétarium,
plus général,
normalement, se monte à l'intérieur d'une salle. Et il y avait beaucoup de bruit, parce qu'il y avait une scène avec de la musique. Or, dans le planétarium, c'est comme dans une tente, on entend tout ce qui se passe dehors et... S'il y a un peu trop de bruit, j'ai tendance à m'égosiller un petit peu.
Voilà,
c'était comme ça.
C'est un contexte différent, mais il ne faut pas hésiter à vous contacter. Hein.
Souvent, c'est plutôt calme dans le planétarium, surtout dans les écoles. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas hésiter à aller voir le site. Il y a toutes les informations. Quelle est la place nécessaire pour pouvoir installer le planétarium? Qu'est-ce que ça coûte? Parce que malheureusement, ce n'est pas gratuit. On n'est pas suffisamment aidé par les collectivités locales pour pouvoir proposer ce genre d'animation sans les faire payer. Et un petit peu le contenu des séances, un peu l'organisation, et puis des compléments, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire en dehors. Si on a la chance qu'il fasse beau, souvent, j'essaye de montrer le soleil aux élèves à midi, ou de regarder comment le soleil se déplace dans la journée. Enfin, il y a beaucoup d'autres animations qu'on peut faire autour, mais c'est sûr que le planétarium, c'est notre vedette, je dirais, dans nos prestations, parce qu'il n'y a pas de planétarium, ou quasiment pas de planétarium en Aquitaine. C'est pour ça que... on a démarré cette activité il y a maintenant 10 ans. Hein, on va fêter les 10 ans là, au mois de
que
novembre.
Que d'anniversaire, hein, la chronique Astro,
voilà.
Les 10 ans de l'Asso.
Et je milite, hein, on a parlé tout à l'heure de l'Observatoire de Florac. Nous militons pour essayer qu'il y ait un jour un planétarium digne de l'agglomération de Bordeaux. Je rappelle que malheureusement, 6e agglomération de France, c'est la seule grande ville de France qui n'en a pas. Même Marseille, avec un tout petit planétarium de 30 places, hein, qui est ridicule par rapport à sa population, a quand même un petit planétarium. Bordeaux, c'est la seule grande ville qui n'en a pas. Et à chaque fois, ça me fait mal au cœur quand je passe sur l'autoroute et que je vois les grands panneaux Bordeaux, cité de l'aérospatiale et de l'aéronautique. Et ben, bravo pour l'aérospatiale, mais il n'y a pas de planétarium pour expliquer le ciel.
Bon, je sais, mais c'est bien de le redire. Alors, Constellation des Galaxies, ça c'est .org, ça c'est le site internet. Michel, on se revoit le mois prochain.
Oui, j'ai pas regardé la date, mais
oui,
je pense
mais
que ce sera vers la fin.
C'est le dernier mercredi voilà, du mois.
C'est le dernier.
Sauf si vous repartez en voyage ou si l'actu fait que.
Je pense qu'il va se passer quelques mois avant mon prochain départ.
En tout cas, un grand merci, hein, Michel, pour tout ce travail. C'est la passion, mais c'est du travail. Hein. Faut le rappeler quand même. Hein.
Un petit peu.